Alors, nous sommes de nouveau au musée de l'Odève avec Yvonne Papin, conservatrice du musée. Nous allons parler de Brésil, identité. Bonjour Yvonne Papin.
Bonjour.
Alors, nous avons déjà un petit peu échangé sur cette exposition dans un échange par téléphone. Vous nous avez dit un peu comment c'est venu, hein, l'idée à partir d'une collection privée, d'un collectionneur qui tient à garder l'anonymat, d'après ce que j'ai compris. Mais en même temps, c'est bien une exposition qui s'inscrit dans la dynamique et la logique ou l'orientation du musée de l'Odève. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi ?
Oui, en fait, ce qui m'a intéressée dans ces artistes que j'ai donc auxquels je me suis intéressée pour le coup d'un peu plus près, parce que, à vrai dire, je ne les connaissais pas du tout. Et en me documentant sur ces artistes, je me suis rendu compte que ces artistes, au travers de leurs œuvres, qui sont bien sûr très différentes, puisqu'il y en a beaucoup, des artistes différents, et qu'ils ont tous un mode d'expression qui leur est propre. Mais en tous les cas, ce qui les relie, c'est leurs œuvres reflètent ces multiples identités, en tous les cas des questions que j'ai regroupées sous le terme de territoire, puisque... soit ils ont vécu une situation et du coup quelque part l'œuvre témoigne de leur provenance géographique, etc. Soit leurs œuvres témoignent d'une foisonnance culturelle qui est bien typique de l'identité, de la diversité culturelle de ce pays. Soit elles représentent la richesse de la faune. Enfin voilà. Cette question de se dire qu'un artiste est très relié au territoire, qui a un territoire qui le constitue et qu'il est profondément imprégné par lui, ça m'a fait du coup me dire que finalement, ces artistes, même s'ils sont originaires d'un pays assez lointain qui, a priori, n'a aucun lien avec l'Odève, mais en tous les cas... Le musée de l'Odève, lui, il parle aussi de ça, de cette question de territoire, puisque les objets qui y sont, Paul Dardet, qui a vécu ici, qui a laissé son œuvre, sont soit originaires ou prélevés sur le territoire, ont été fortement marqués par cet environnement. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de faire ce rapprochement.
Alors, vous aviez déjà, il y avait une exposition d'un photographe dont le nom m'échappe là tout de suite, qui avait fait une sorte de résidence un petit peu avec le musée. Donc vous êtes dans le même type de démarche, dans ce rapport à l'environnement, même si on part au Brésil.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même la volonté dans nos expositions temporaires aussi de trouver une cohérence avec le projet scientifique et culturel du musée, et que ce ne soit pas comme ça un ovni qui vienne de nulle part, effectivement.
Beaucoup d'artistes rassemblés, il y a une cinquantaine d'artistes, je crois, qui ont été rassemblés, c'est cela ?
Oui, 49 précisément.
Alors, on n'est pas à la cinquantaine, mais pas loin. Alors, des artistes généralement autodidactes, qui ne sont pas passés par des écoles des beaux-arts. Et c'est un courant de peinture qui a couvert quoi, l'ensemble du XXe siècle. Ou est-ce qu'on peut parler de courant déjà, ou d'école ?
Non, alors on ne peut pas vraiment parler d'école. Le terme art naïf, je pense, est un terme qui permet justement de regrouper tous ces artistes qui ont pour point commun de la plupart d'être autodidactes, de quand même aussi, pour le coup, d'être peu concernés par des aspects techniques et qui ont souvent des points communs. Formellement, c'est en tous les cas, même s'ils s'expriment tous très différemment les uns des autres, mais formellement, ils ont une manière un peu assez synthétique de synthétiser les sujets. Souvent, ils passent par l'utilisation de couleurs assez vives. En fait, il y a une liberté, peut-être une inventivité chez ces artistes, qu'on a regroupé sous l'appellation de naïf, qui n'existe pas forcément chez des artistes, on va dire, plus réfléchis, qui ont un cursus académique et qui sont donc forcément formatés par un certain nombre soit de limites techniques, soit de comment dire, d'injonctions au niveau des sujets, puisqu'il y a eu souvent dans l'histoire de l'art des classifications de ce qui était plus noble ou pas, le paysage étant pas très noble, par exemple. Enfin, voilà. Du coup, il y a cette... Je me souviens plus de votre question, mais en tous les cas, ils sont regroupés. Ce n'est pas une école, puisqu'il y a... Il y a une peinture naïve qui existe au Brésil depuis les années 40. Il y en a une très connue, je crois, à Haïti. Mais en Europe, il y a aussi des peintres naïfs.
Oui, des peintres qui sont, voilà, qui n'ont pas de formation académique, hein, vous le disiez, et du coup, qui sont aussi sur des sujets assez peu académiques. Ce n'est pas la peinture officielle, ce n'est pas la peinture d'histoire, ce n'est pas des choses comme ça. Et c'est quelque chose, on découvre à travers l'exposition, qui parle beaucoup du quotidien, qui pose des questions sociales, de rapport à l'environnement. Il y a quelque chose de très... Oui, est-ce qu'on peut... Vous serez d'accord, vous seriez d'accord de dire qu'il y a un côté peinture sociale, un peu.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que je crois que l'intention n'est pas de revendiquer quelque chose. Je prends un exemple. Il y a dans l'exposition un tableau d'un peintre qui s'appelle José Antonio da Silva, qui a peint un tableau dans lequel on voit un champ de coton avec au premier plan encore 2-3 arbres qui sont en train d'être découpés pour pouvoir agrandir le champ de coton. Ça, c'est typiquement une œuvre qui, effectivement, dont on pourrait dire « Ah, bah, le peintre... le pain pour nous livrer un message sur la déforestation ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de la part de l'artiste plutôt un thème auquel il est, un sujet concret du quotidien auquel il est confronté parce qu'il habite dans une région où on plante du coton, mais que ce n'est pas forcément pour dire « attention, j'alerte le monde sur... » Voilà. Mmh. Donc je ne pense pas que ce soit en soi une peinture à intention sociale, mais elle l'est de fait parce que, encore une fois, les peintres sont concernés et peignent des choses qu'ils ont vécues.
Alors, il y a aussi quelque chose qui frappe. Quand on regarde rapidement, on se dit, bon, il y a ce côté, voilà, ce qu'on appelle la peinture naïve, un peu la représentation, ça fait penser à du dessin d'enfant ou des choses comme ça. Et en même temps, je trouvais sur certaines œuvres, il y avait une sorte de paradoxe. Oui, le trait et les couleurs sont... La plat est un peu approximatif, le dessin aussi et tout. Et puis, il y a une... entre guillemets, science de la perspective. C'est-à-dire qu'on a une perspective géométrique qui est strictement respectée.
Oui, alors pas chez tous, hein, mais oui, effectivement, il y en a qui instinctivement ont le sens à la fois de l'espace, de la profondeur, mais aussi des couleurs. Hein. Il y a parmi ces artistes certains très beaux coloristes, hein, je pense à Rancino, par exemple. Oui, tout à fait, ça vient instinctivement.
Oui, ils apprennent par eux-mêmes, c'est pas l'académie qui leur a appris, mais ils arrivent sur les mêmes chemins au bout du compte.
Oui, absolument. Oui.
Et puis, alors, il y a aussi, vous évoquez cette couleur, est-ce qu'on peut parler de peinture naïve? Moi, j'aime bien la citation que vous nous aviez proposée d'Aragon, qui serait naïf de croire que cette peinture est naïve. Hein, est-ce que ça a été un guide pour vous dans l'organisation de cette exposition?
Non, à vrai dire, cet aspect-là n'a pas été pour moi fondamental. Non. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que ces artistes montrent au travers de leurs œuvres, rendent hommage à un pays extrêmement riche culturellement. Et c'est ça qui m'a intéressé, en fait.
Oui, alors c'est peut-être le choix des œuvres que vous avez fait, j'imagine aussi, et l'organisation. on découvre vraiment un pays dans toutes ces diversités. Alors, quand on parle Brésil, bien sûr, on pense à la samba, on pense au football. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les favelas, ou ce qu'allaient devenir les favelas. Il y a toute cette multiplicité ethnique, on pourrait dire. Il y a le syncrétisme religieux. Donc, vous nous proposez, je me dis, ou ces peintres nous proposent, ces artistes nous proposent, un voyage vraiment à l'intérieur du Brésil.
Oui, absolument. Alors, c'est volontaire aussi dans l'exposition que de contextualiser un peu les choses en parlant un peu du pays Brésil, puisque pour un certain nombre de visiteurs, j'imagine qu'ils ne connaissent pas forcément bien ce pays. Et donc, de rappeler effectivement que c'est un pays de la taille d'un continent, que c'est un pays qui a les plus grandes réserves d'eau douce au monde, que c'est un pays qui, pour l'instant, a encore la plus forte richesse et diversité en faune et en flore, etc., etc. Donc, effectivement, c'est un voyage à travers... C'est un voyage à travers un pays grâce à des 49 peintres, hommes et femmes, qui nous donnent à vivre ce pays, en fait.
Et puis alors, à travers une diversité de techniques, on a de la peinture entre guillemets traditionnelle, hein, je veux dire, des couleurs, mais il y a des inclusions de matière dans la peinture, il y a tout un tas de choses comme ça. Certains sont des expérimentateurs, ils n'arrêtent pas d'expérimenter.
Oui, après, il y a des artistes qui ont exercé la peinture tout en essayant de survivre, en exerçant des métiers divers et variés, hein, cireur de chaussures, livreur de je ne sais quoi. Enfin voilà, il y a beaucoup de ces peintres qui ont exercé des métiers divers et variés. Et donc, souvent, au début, notamment, dans le début de leur carrière, ils prennent les matériaux qu'ils trouvent aussi. Par exemple, ils utilisent des cartons déjà usés, etc. D'autres, comme vous le disiez, inclus dans leurs œuvres du carton, voire même leurs propres cheveux. Enfin, effectivement, ils expérimentent.
Alors, je vous propose qu'on aille voir ces œuvres un petit peu, et puis on verra plus précisément comment ils expérimentent et comment ils apportent leur touche si personnelle. Alors là, on est devant des tableaux d'un artiste qui peut, alors là, on peut dire très naïf, on peut avoir l'impression de dessin d'enfant, mais pas seulement. Hein, c'est Ronchino, où il y a un H, donc je pense que ça doit se dire Ronchinho en portugais. Oui, parce qu'il est né dans un cabane, un ranch, mais pas les grands ranchs américains, une cabane dans la campagne, pauvre, si j'ai bonne mémoire.
Oui, en fait, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu défavorisé, qui n'arrive pas à conserver un emploi stable et qui, du coup, vit dans des espèces de cabanes au bord de la route, d'où lui vient son surnom, puisque de son vrai nom, il s'appelait Sebastião Teodoro Paulino da Silva.
Si vous avez interrogation après pour vous, si vous avez retenu.
et donc le ranchino, ça, qui veut dire petit ranch, fait allusion à cet état de fait qu'il se construit des petites cabanes au bord de la route, et finalement il adopte ce nom. Ça devient son nom de signature, et dans pas mal d'œuvres, il le montre vraiment. Sa signature est très grande et très visible. Alors, c'est un peintre qui est attachant. Il était handicapé mental, et on pense que le fait d'avoir cet handicap a favorisé son goût pour la peinture, parce que du coup, ça devient pour lui un moyen de s'exprimer. Et c'est un peintre qui représente des scènes de ferme, en tous les cas liées à la ruralité. Donc nous avons sous les yeux trois œuvres. Il y en a une où on voit un renard qui vient de voler une poule. L'autre en dessous qui montre une cour intérieure d'une ferme avec des femmes et des hommes occupés et puis tout un tas de poules et de dindes. Et puis en haut à droite, un autre tableau d'une petite ferme. Alors c'est un peintre qui est très intéressant parce que du coup, qui a commencé à travailler sur vraiment des matériaux de récupération, et il est repéré dans la rue par un autre peintre qui lui offre de la peinture, de la gouache notamment. Et donc il en vient à la couleur et ça devient un coloriste hors pair. Sans avoir acquis aucune technique, il a vraiment le sens de la couleur. Et donc ses tableaux sont facilement reconnaissables, à la fois par l'effet un peu vaporeux de sa peinture, c'est-à-dire que c'est une touche qui est un peu comme un nuage, et puis crée un contraste avec des ombres noires et des cernes noires qu'il met en place. Il y a autre chose qui caractérise sa peinture, c'est que c'est la disproportion souvent, c'est-à-dire qu'il s'en fiche totalement des proportions. Et par exemple, dans la scène avec le renard, il y a une poule qui s'est mise en hauteur sur un petit cabanon sur sa maison de poule, mais on a l'impression que la poule est aussi grosse que le renard. Enfin voilà. Donc c'est quelqu'un qui se fiche totalement de ça. Et il y a dans une autre salle du musée un autre tableau très beau de lui, où on voit des panthères au bord de l'eau, et on a vraiment l'impression qu'il nous donne accès presque à l'esprit des panthères. Il y a un côté comme ça de nous rendre très proches de ces sujets.
Oui, ce sont des petits formats pour l'essentiel. Celui que vous évoquez dans une toute première salle de l'exposition. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a... Il y a une dominante de couleurs sur chaque toile qui est très forte, donc qui est un fond, mais pas seulement, parce qu'on voit que les autres, on a le sentiment, vous disiez, c'est un grand coloriste, que les autres couleurs qui viennent par-dessus ont quelque chose aussi de la couleur de fond. Il y a une harmonie qui est manifeste là. Le renard qui attrape la poule, on a un fond vert éclatant. Hein, la scène de basse-cour avec un personnage qui a l'air de faire un panier en osier ou quelque chose comme ça. On a du orange, un ciel orange derrière, ce qui peut paraître très surprenant. Mais le sol de la cour est complètement en harmonie avec le fond. Et puis la scène que vous évoquez, on voit quelques maisons avec des arbres devant. On retrouve, alors là c'est un peu plus mélangé, mais on a le bleu des murs des maisons, et puis on a le vert de l'herbe devant, et tout ça, il y a une dominante, je veux dire, chaque œuvre a sa personnalité de couleur, on pourrait dire.
Oui, absolument. Et après, il arrive à faire en sorte que les couleurs s'accordent très très bien, même si elles sont assez différentes, comme vous le disiez, l'orange qui est quand même assez fort, mais qui du coup s'accorde bien avec des couleurs complémentaires, le bleu.
Oui, puis l'ose des contrastes que. Dans les académies de peinture, on dit qu'il ne faut pas faire ça, quoi. C'est ça. On met les couleurs complémentaires l'une à côté de l'autre, l'une sur l'autre. Donc, Rancino, voilà. Un artiste, bon, il y a plusieurs œuvres de lui. Hein. Il y a une demi-douzaine d'œuvres de lui dans toute l'exposition,
à peu près. Oui.
Donc, profitez pour découvrir une personnalité très attachante.